Direct en jeu de Radio Insolite, Julie Chloé est en pause, ou plutôt elle est toujours dans les parages, mais comme elle a un travail assez conséquent en ce moment, c'est moi qui prends la main et j'ai le plaisir d'être avec Martin. Bonjour Martin.
Bonjour, merci beaucoup de me recevoir ici.
Alors, j'ai dit Julie Chloé, elle s'occupe de notre chronique qui s'appelle Tendance Lifestyle. Et vous, par contre, vous avez un vrai métier, j'allais dire.
Un vrai métier comme tout le monde, je suppose. Donc Martin Fontaine, je suis enseignant depuis bientôt une quinzaine d'années à l'Institution des Chartreux, donc sur la colline de la Croix-Rousse. Et malgré 15 ans derrière moi, j'ai toujours soif de faire découvrir des notions, d'être à la rencontre de mes élèves. Donc voilà, donc prof dans la vie de tous les jours.
C'est une vocation, une profession de foi ?
Une vocation, et puis je vais tout de suite vous dire pourquoi. Parce que souvent, quand on demande aux élèves, en collège, lycée, est-ce que tu voudrais être prof plus tard, on n'a que des noms. Voilà, il n'y a personne, ils veulent tous partir loin d'ici. En fait, moi, c'est dès le collège et le lycée, quand j'étais en cours, j'aimais apprendre. J'aimais apprendre, et quand je voyais mes profs, donc forcément beaucoup de profs scientifiques, donc je suis prof de physique, chimie et d'informatique, NSI, je me disais, c'est chouette ce qu'ils font, ils nous apprennent des choses, on découvre des choses, et je me disais, pourquoi pas moi, et puis ça c'est tout doucement, ça a germé. Donc c'est vraiment simplement en me disant, je trouvais ça beau, tout simplement.
Alors là c'est la question... On va dire la question insolite. Votre formation de base, j'espère que c'est dans le domaine de la physique et de la chimie.
Plus ou moins, comme tout le monde, mais quand même assez proche. J'ai des collègues qui travaillent ici, qui dans le monde scientifique, qui sont des anciens ingénieurs. Mais moi, c'est un peu plus classique. J'ai fait une classe préparatoire, mais PTS-IPT, donc c'est plus dessin industriel, plus pour les arts et métiers. J'ai voulu essayer... j'ai aimé, mais j'ai pas trop accroché au dessin industriel. Et du coup, je me suis réorienté en licence 3 en physique chimie. Et c'est là où je me suis dit, j'aime les sciences, j'aime le métier de prof, je fonce. Et c'est comme ça que j'ai passé le CAPES, le concours, je l'ai eu. Et très rapidement, j'ai été pris à l'Institution des Chartreux. Et c'est vraiment un endroit très agréable où on peut travailler.
Justement, vous l'avez dit, ça porte bien le nom d'institution des Chartreux, mais c'est une institution à Lyon.
Donc c'est une grande institution. Donc moi, je suis parisien d'origine, donc je ne connaissais pas les Chartreux avant d'arriver, mais c'est un établissement qui rayonne. À la fois, les locaux, ils sont magnifiques. Et là, en 2026, nous allons fêter les 200 ans de l'institution. En 1826, il y avait une promotion d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'élèves. Il y avait une première promotion. Et pendant les 200 ans, c'est la mission des Chartreux, c'est d'éduquer, de former et de faire que les jeunes deviennent des adultes dans les années qui suivent. Oui, on rayonne d'un point de vue culture, d'un point de vue, on a beaucoup d'élèves qui font des classes préparatoires, qui vont en médecine, qui font des écoles de commerce. C'est vraiment, c'est un très bel établissement, et c'est vrai que ça a son importance dans la ville de Lyon.
C'est quoi le rôle d'un prof, à votre avis ?
Donc, basiquement, un prof, il vous dira, c'est le programme. C'est faire le programme, le finir. C'est une pression. Moi, en 15 ans, je n'ai jamais fini un programme parce que les programmes, ils sont faits pour être terminés début juillet. Et comme à chaque fois, on finit début juin au lycée, c'est l'horreur. Donc, on doit faire des choix. On n'en dort pas la nuit parce qu'on a une heure qui saute, etc. Donc, c'est le métier de prof, c'est ça. Et quand on fait cours, les deux autres... partie importante du boulot de prof, c'est les copies et les conseils de classe. Les copies, c'est affreux, tous les profs vous le diront. La première est très sympa, mais la cinquantième, on n'en peut plus. Et les conseils de classe, qu'on aime bien faire le bilan. Ça, c'est le métier de prof, basiquement. Le métier de prof, à ma façon, moi, c'est faire aimer sa matière, découvrir, raconter des histoires. Être prof d'histoire géo, j'aurais bien aimé aussi. J'aime bien l'histoire, j'aime beaucoup la période de la Seconde Guerre mondiale. Mais moi, l'objectif, c'est qu'ils deviennent, moi, en physique et informatique, des scientifiques, des ingénieurs. Voilà, c'est l'objectif. Mais je veux qu'ils prennent plaisir. Je donne un exemple, et je vous redonne le micro juste après. C'est en seconde, depuis 5-6 ans, je fais un TP, donc en laboratoire, des travaux pratiques, où je le fais sous forme de jeu de rôle. C'est, donc les élèves arrivent, le laboratoire est plongé dans la pénombre avec des bougies. Il y a la musique du Seigneur des Anneaux que je laisse pendant tout le TP. Je suis déguisé, voilà, avec une cape, avec un chapeau, etc. Et il tire au sort un rôle entre paladin, voleur, j'ai quoi encore? Enfin, j'ai différents rôles du monde Heroic Fantasy, qui leur donne des pouvoirs pour réaliser une quête. Donc la quête, c'est réaliser une solution en chimie, hein, il y a des notions réelles dedans, mais ils peuvent se lancer des pouvoirs pour avoir de l'aide du prof ou se lancer des pouvoirs entre eux pour se ralentir, pour être le premier à y arriver. Et ça c'est fabuleux. Quand c'est terminé, ils sont tous déçus, etc. Bon, ils gagnent du chocolat en échange pour l'équipe là, qui arrive en premier, mais rien que ça, c'est très fatigant pour le prof, mais le simple fait de voir des étoiles dans leurs yeux, c'est du pur bonheur.
Qu'est-ce qui vous a décidé à lancer ce type de concept? Parce qu'évidemment, vous avez écrit deux livres qui sont importants, qui sont des quiz et qui plaisent aussi aux élèves, mais vous sortez un peu du schéma traditionnel de l'éducation nationale.
Donc cette question, les élèves me la posent souvent. Pourquoi est-ce que vous souriez tout le temps? Pourquoi est-ce que vous aimez raconter des blagues? Ou je plaisante beaucoup. Je raconte souvent des plaisanteries sur les élèves. Dès que je peux me moquer d'eux, souvent j'ai un élève. La blague classique, c'est un élève. Il me dit, j'y arrive pas. Bah, je lui dis, bah, c'est normal, t'es nul. Point. Et ça les fait. Voilà. Donc ils comprennent que. Et j'aime bien le faire souvent aux meilleurs élèves. J'aime bien le faire aux meilleurs élèves, mais c'est bon. Je le ferai pas forcément au moins bon, forcément. Mais ils savent que c'est une boutade et c'est ma réponse instantanée. Entre guillemets. Et donc je me suis égaré par rapport à ce qu'on m'a dit. Oui, voilà. Quand je suis devenu prof, je voulais être prof en prenant tout ce que j'avais vu qui était bien. C'est-à-dire que tel prof que j'ai eu en physique-chimie en seconde, j'ai aimé cette façon de faire. Tel prof d'une autre matière de collège, j'ai aimé cette façon de faire, etc. Et moi, je voulais faire ce que j'ai aimer recevoir. Voilà. Et donc moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est jeux de société, jeux de cartes, etc. J'aime bien tout ce qui est quiz, tout ce qui est, etc. Et donc j'ai commencé, dès ma première année en seconde, à poser, à la fin de mes interros de seconde, une question quiz. Une question, cinq propositions, une chance sur cinq. Voilà. Vous réussissez, vous avez un point bonus. Vous ratez, tant pis pour vous. Je voulais quelque chose qui soit en lien avec l'interro, mais qui soit décalé, qui soit ouvert, qui soit plus concret, parce que je suis obligé de faire des exercices où on fait un mélange, qu'est-ce qui se passe, quelle est la concentration de ce qu'on obtient, enfin des choses très très basiques et ça plaît ou ça plaît pas, etc. Mais moi je voulais faire vraiment des choses qui intéressent et j'ai mis voilà des questions un peu décalées. Donc j'ai fait ça pendant 10, 12 ans en continu et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que les élèves parfois ils me demandaient des interros pour avoir une nouvelle question. Parfois, je faisais une interro et la sonnerie de la récréation arrivait. Les élèves, ils attendaient que je donne la réponse avant d'aller en récréation. Ils étaient prêts à sacrifier la récréation, qui est sacro-saint, hein, la récréation, pour avoir la réponse. Et là, je me suis dit, ça a l'air de leur plaire. Et puis, j'ai eu la chance de contacter mon éditrice, là, aux éditions Ellipse, qui a été emballée par le projet. Et puis, je me suis lancé là-dedans.
Alors là, vous venez de faire la passation de manière formidable, puisque donc, après avoir utilisé certains systèmes, vous avez décidé de sortir un premier livre qui s'appelle 90 questions scientifiques surprenantes et un deuxième livre qui s'appelle 90 nouvelles questions scientifiques surprenantes. Et ce que j'adore, c'est. Je vous demande un truc un peu compliqué, c'est de me définir qu'est-ce qu'il y a en première page, parce que je trouve ça assez extraordinaire, surtout le deuxième.
Oui, tout à fait. Donc, on voulait faire une couverture aussi qui soit surprenante, puisque le mot surprenant était dans le titre. En haut du tome 1, je vais dire tome 1, tome 2, mais on n'a pas mis tome 1, tome 2, parce que, à ce qui paraît, c'est moins vendeur dans le commerce, m'a dit mon éditrice. Dans le tome 1, en haut, il y a un avion, tout simplement. Un avion de ligne. Quel est le lien avec la physique-chimie? Bon, bien sûr, il y a l'aérodynamisme, etc. En fait, il y a une question dans le tome 1 qui demande, je vous en poserai d'autres plus en détail un peu plus tard, qui demande quand on va de Paris à Shanghai et de Shanghai à Paris, la durée de vol n'est pas la même. Il y a un décalage de 2 heures entre les deux. Je demande pourquoi. Voilà, d'où ça vient ce problème-là. Et ça, c'est intéressant. L'autre image, c'est un piment. C'est un piment voilà, rouge, hein, tout simplement. Moi, je vais souvent au Pays Basque, donc on pourrait dire un piment d'Espelette. Et là, j'ai posé une question. Souvent, on dit une longueur, c'est en mètres, une intensité électrique, c'est en ampères, une puissance, c'est en watts, etc. Eh bien, en fait, les piments, on a mesuré leur force, voilà, est-ce que ça fait, c'est fort en goût. Eh bien, je pose la question, en quelle unité ça s'exprime? Voilà, donc c'est assez amusant pour poser cette question-là. Sur le tome 2, bon, il y a des cristaux de glace ou un peu de buée sur une vitre, parce que je pose beaucoup de questions sur tout ce qui est changement d'état physique, hein, la fusion, la vaporisation, etc. Et il y a deux œufs aussi, tout simplement. Donc une fois, je faisais une séance dédicace, j'ai une cliente qui m'a demandé si c'était un livre sur, pour mieux se nourrir, etc. J'ai dit non, pas tout à fait, c'est pas ça. Non, en fait, je pose une question qui est amusante et que j'aime beaucoup aussi. C'est souvent, vous faites tomber un objet, vous le cassez, et là vous dites, ah, si j'avais été moins maladroit, j'aurais pu l'éviter. Et souvent en science, on se demande, est-ce que ça peut pas être réversible? Est-ce qu'on ne pourrait pas revenir en arrière? Donc bien sûr, quand on casse quelque chose, ce n'est pas possible. Et bien là, des chercheurs du MIT, je me base beaucoup sur des articles scientifiques du MIT, ils ont fait cuire un œuf dur, voilà. Et la question était la suivante, c'est est-ce qu'on peut décuire un œuf? Voilà. Voilà la question. Donc on pourrait se dire, non, ce n'est pas possible. Ben, ils ont réussi à décuire un œuf, donc il n'est pas mangeable après avoir remis le blanc dans l'état un peu transparent comme on le connaît quand on casse un œuf au départ. Ils ont réussi à le revenir en arrière, mais avec le produit utilisé, ils l'ont rendu non consommable. Mais derrière, il y a des applications très très utiles dans le domaine de l'SVT. Et moi, j'aime bien ce côté un peu, est-ce qu'on peut décuire un œuf? C'est tellement bizarre que j'aime bien et je l'ai inclus dans le tome 2.
C'est un peu la vie de tous les jours, quoi.
Tout à fait. Il y a beaucoup de choses. Donc, oui, il y a quand même des questions scientifiques sur l'astronomie, mais j'aime bien parler des prix Nobel, de l'histoire des sciences, de certaines découvertes. Je parle de comment les chips ont été inventés, voilà, tout simplement. J'essaie de donner du concret. Dans le tome 2, je me pose 4-5 questions sur tout ce qui est sur le nucléaire. Souvent, ça fait un peu peur, en plus actuellement, ce qui se passe en Ukraine. On a tous entendu parler. Voilà, bon, il y a eu l'accident de Tchernobyl en 86. Je pose quelques questions pour mieux cerner ce qui s'est passé, parce que souvent, on se dit le nucléaire, c'est dangereux. Il y a des choses à expliquer là-dessus. Et j'ai même posé une question positive, puisqu'il y a eu, pas actuellement, une zone d'exclusion autour de Tchernobyl. Les premières années, bien sûr, il y a eu des cas de cancer au niveau des animaux et des malformations, et ça comme chez l'être humain, donc c'est une catastrophe, un accident nucléaire, ça c'est sûr. Mais donc maintenant, il y a toujours des ondes nocives, donc il ne faut pas y aller trop longtemps, il faut y aller avec un détecteur de particules radioactives. La faune et la flore s'est développée de manière très très surprenante et belle, je dirais. Et je pose une question un peu positive là-dessus en disant, et d'ailleurs, il y avait un philosophe qui avait parlé là-dessus, c'est qu'il y a des espèces en voie de disparition qui ont préféré se réfugier ici, loin de l'homme, au contact, excusez-moi, des particules radioactives, plutôt que d'être chassées par l'homme. Et ça fait réfléchir, de se dire que finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu trop violent, nous, vis-à-vis de la nature? Et d'ailleurs, on en a parlé pendant la crise du Covid, avec ce qu'on a pu voir dès qu'on a eu le confinement, avec les dauphins qui venaient dans les ports, avec la baisse des pics de pollution. C'est vrai que c'est important de réfléchir à ça. Et la crise traversée, moi, j'en ai beaucoup parlé avec mes élèves. Et d'ailleurs, j'ai gagné un pari avec mes élèves, je leur avais dit, deux hivers avec le masque, au bout de deux hivers, on finirait par l'enlever, parce que ce serait suffisant en termes de temps pour trouver des solutions. Avec les vaccins, hein, bien sûr. Et puis, au final, malgré les variants, j'aimerais saluer la prouesse. Voilà, c'est une véritable prouesse que là, au bout de deux ans, il y a encore le virus. Hein, mais pouvoir enlever le masque, de se dire qu'on a été vacciné pour limiter les formes graves, ça, c'est une bénédiction pour les profs scientifiques, pour montrer que la science, quand il y a un problème, on y arrive, quand on met les moyens.
Martin Fontaine, prof de scientifique, ouais, de science, et auteur de ce livre, enfin de ces livres, 90 questions scientifiques surprenantes. Alors, puisque vous vous apprêtez à donner 2-3 exemples, moi je vais vous poser une colle. J'ai le droit ? Comment est-ce qu'on peut matérialiser le vent lunaire, s'il vous plaît ?
Le vent lunaire, donc. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc j'essaie de chercher. Peut-être on parle des du drapeau américain. Voilà, d'accord, je fais le lien. D'accord, oui, j'ai une question là-dessus. D'accord, c'est parce que j'étais en train de réfléchir, parce que après il y a les Et forcément, quand je n'ai pas les notes sous les yeux, avec les orages, avec les particules solaires, ou je ne sais plus comment s'appelle le terme de ce qu'on peut voir en Norvège, Danemark, etc. Donc, bref. Donc, oui, c'est quand donc, souvent, on pense que les Américains n'ont jamais mis le pied sur la Lune. Et souvent, l'argument numéro un de ceux qui contestent ces voyages qui ont eu lieu entre 69 et 72, 73, hein, dans ces années-là, hein, il y a eu plusieurs voyages, hein, sur la Lune. Pas que Neil Armstrong et Buzz Aldrin et son dernier camarade. Voilà, c'est ça. Qui est d'ailleurs décédé il n'y a pas longtemps. C'est que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc pas de vent, donc pas moyen de faire flotter un drapeau comme c'est joli sur les photos. Or, on voit sur la photo le drapeau flotter sur la Lune. Et bien la réponse est la suivante, c'est qu'ils ne voulaient pas un drapeau qui tombe lamentablement, et c'était pas beau pour les Américains. Vous savez, les Américains sont très très fiers de leur pays, de leur drapeau et de leur hymne. Et bien ils ont mis des fils de fer derrière le drapeau pour pouvoir le tordre et lui donner un aspect avec le vent pour la photo, simplement. C'était juste une petite technique pour y arriver. Et ça, quand on le sait, ben, on comprend mieux la photo. Après, le meilleur argument que j'ai à apporter à ceux qui pensent qu'on n'a jamais mis pied sur la Lune, c'est quand on est bien positionné avec la Lune, lors d'une mission Apollo, ont été déposés sur la Lune des réflecteurs, donc des miroirs qui font 30 cm sur 30 cm à peu près de mémoire. Eh bien, il suffit d'envoyer une impulsion laser très forte depuis la Terre, et en quelques secondes, je crois que c'est 2 secondes et demie pour faire l'aller-retour, il faudrait que je refasse le calcul, on reçoit un signal retour. Le simple fait qu'il y ait un signal retour, c'est qu'il y a un miroir sur la Lune, c'est qu'on a bien déposé quelque chose pour y arriver. Donc c'est des histoires que je raconte souvent aux élèves.
Je rappelle que pour les 30 ans d'Albertville, quand on a fêté ça en février 2022, on a su aussi pourquoi est-ce que les drapeaux olympiques flottaient tout le temps, parce qu'il y a un système aussi tout en haut du mât qui permet d'avoir le drapeau qui est toujours stable et fixe, comme on dit. Bon, on prend un exemple sur ces questions scientifiques un peu étonnantes, surprenantes, déroutantes.
Donc allons-y, je vous en pose une première que j'aime bien parce qu'elle est historique, et puis une petite anecdote pour vous montrer combien je suis un peu fou. Et ça fait, et d'ailleurs un prof un peu fou de sa matière, ça, les élèves ils adorent de voir ça. Je parle de la poix. Donc la poix, c'est une substance très très collante, très très visqueuse, obtenue par distillation, hein, qui est noire. Elle peut être naturelle ou on peut la fabriquer de manière artificielle. Et on l'utilise beaucoup pour imperméabiliser les bateaux. On s'est posé la question. Donc la poix, c'est, voilà, quand ça sèche, ça devient dur, voilà. Et on s'est posé je pose la question, c'est que si je mets la poix dure dans un entonnoir, voilà, donc ça sèche, et que j'ouvre le bouchon de l'entonnoir par le bas, moi je vous dis qu'en fait c'est la poix, c'est un liquide. Il y a une goutte qui va tomber de temps en temps. Je demande, est-ce que c'est une fois par mois, une fois par an, une fois tous les 5 ans, une fois tous les 10 ans? Je pose cette question-là. Donc là, c'est à vous de trouver la solution. Et si vous achetez mon livre, en tournant la page, vous avez la réponse. Eh bien, la poix, il y a une goutte qui tombe tous les 10 ans. Une goutte tous les 10 ans. Donc elle met 10 ans à se former et à tomber. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que cette expérience a été mise en place. C'est la plus vieille expérience qui existe au monde, en continu. Elle a été mise en place en 1930 en Australie, à l'université de Brisbane. Et depuis 1930, il y a eu 9 gouttes qui sont tombées. La dernière en 2014. Donc là, la 10e goutte va bientôt tomber. Il y a une caméra, on peut suivre ça en direct sur Internet. Et moi, je trouve ça fantastique d'avoir une expérience qui dure X années. Et personne n'est immortel sur cette terre. J'ai lancé cette expérience ici au Chartreux. Là, je suis allé la voir il y a 4-5 ans. Hein, elle est à l'étage en dessous de là où on se trouve actuellement. Et j'ai fait un petit musée, hein, d'ailleurs, là-dedans. Et tous les 3 mois, je prends photo et j'ai mis. J'espère que dans 5, 6, 7 ans environ, je puisse voir une goutte tomber dans mon bécher en dessous. Et j'espère que cette expérience, le jour où je prendrai ma retraite, qu'elle puisse continuer. Voilà, et qu'on puisse parler des Chartreux peut-être un jour avec cette expérience.
Je vais être très basique dans la question. Quel intérêt de savoir qu'il y a une goutte qui tombe tous les 10 ans?
mieux comprendre notre univers. Voilà. Les physiciens et les chimistes, c'est expliquer le monde dans lequel on fonctionne. Voilà, c'est ça. Et en fait, donc les Chartreux, c'est un établissement qui est catholique, hein, qui est religieux, hein, qui a un côté voilà, croyant, mais ça n'impacte pas du tout les enseignants ou les élèves. On est tout à fait libre de venir ici sans forcément croire. En fait, je dis ça parce que on remarque que certains vitraux sont plus épais en bas qu'en haut, de quelques dixièmes de millimètre. Eh bien, certains scientifiques estiment que peut-être que l'état solide n'existe pas. En fait, l'état solide, c'est peut-être un état liquide tellement visqueux que ça ne coule pas sur 5, 10, non, plus que 10 ans que la poix, mais peut-être que le verre est liquide et que si on attendait un million d'années, on aurait tout qui tomberait sous forme de gouttes, sauf qu'avec les guerres, les tremblements de terre, etc., etc., on ne peut pas faire des expériences qui durent un million d'années. C'est impensable. Donc là, l'expérience de la goutte de poids, c'est 92 ans. C'est une prouesse. Et ça fait réfléchir sur est-ce qu'un solide, c'est bien un solide ? Est-ce que ce ne serait pas un liquide ultra, ultra visqueux ? Et donc ça permet juste de mieux comprendre la matière.
Être ou ne pas être, je serais tenté de dire. That is the question. Un autre exemple ?
Allons-y. C'est pour ceux et celles qui aiment faire des régimes. Voilà. Donc, et c'est une question, là je vais prendre tout de suite mes sources, est-ce que c'était aussi le MIT ? Non, c'est une école de Sydney qui a fait cette recherche. Voilà, direction à nouveau l'Australie, c'est quand on fait un régime, voilà, on perd du poids, on perd des kilogrammes. Donc, en physique, on aime bien la différence entre masse et poids, je vais vous abréger ceci. Ben, je demande, quand on perd du poids, quand on perd de la graisse, que devient cette graisse ? Donc, il y a 5 propositions, est-ce que ça devient du muscle, du dioxyde de carbone, de l'eau, de la chaleur ou de l'énergie ? Je pose cette question. Et la réponse, elle est très, très surprenante. Parce que souvent, on dit, quand je perds du poids, je deviens plus musclé. Souvent, c'est la réponse qu'on peut donner. Ou alors, ça part dans les selles, dans l'urine ou dans la transpiration, etc. En fait, non, votre graisse, vous l'expirez sous forme de dioxyde de carbone. Ça a été prouvé par l'école de biotechnologie et des sciences biomoléculaires de Sydney. Et en fait, l'idée est toute bête, la graisse, c'est une molécule organique avec du carbone dedans. Eh bien, ce carbone, il doit bien aller quelque part. Donc, si on dit qu'on transpire avec H2O, il n'y a pas de carbone dedans. Et en fait, ils ont montré qu'une partie, ça s'expire sous forme de CO2. C'est-à-dire que quand on perd du poids, on va plus expirer que ce qu'on gagne en mangeant, etc. Et moi j'adore ça, parce que c'est tellement, c'est tellement surprenant que cette question, je l'ai tout de suite appréciée et bien sûr retranscrite, je l'ai écrite autrement dans mon livre. Voilà.
Pourquoi l'idée d'écrire ce livre, justement ? C'est pour permettre au commun des mortels de pouvoir accéder à une connaissance différente ?
C'est ça, je prends tellement plaisir à être prof que parfois j'aimerais être prof avec toutes mes classes, tous les élèves. Et parfois j'ai des élèves que je croise dans la rue et me disent j'étais au Chartreux et je ne le connais pas. Il y a 9 classes en seconde, j'en ai 2. Il est passé par d'autres profs. Et c'est pas plus mal. Moi, avoir un élève 2-3 fois de suite, au bout d'un moment, je lui dis tu vas avoir les mêmes défauts que moi, donc ce serait bien de changer un peu. Donc voilà, là, cette année, j'ai un élève, j'ai 4 ans de suite et je l'ai eu au collège dans un club de jeux de société en 6e, 5e. Donc ça fait 5 ans de suite que je l'ai en cours. Et il va rester au Chartreux l'année prochaine en BTS informatique. Je pourrais presque enseigner là-bas si je voulais, mais je vais le laisser tranquille. J'aime tellement parler science et expliquer, donner des explications et raconter des histoires. Voilà. Un prof, c'est ça. Un prof, c'est un homme de théâtre. Ici, nous, au Chartreux, on a encore des estrades. Là, j'en vois une juste devant moi. On aime bien être mis en avant. Et on est différent quand on est prof que quand on est devant en domaine privé. Mais quoi que. Voilà, ça ressort un peu. Mais voilà, on aime bien parler. D'ailleurs, vous avez la preuve, j'ai du mal à m'interrompre. Donc voilà, on aime bien raconter des histoires. Et moi, je voulais raconter ces histoires qui sont un peu décalées. Là, quand je les montre à des collègues de physique-chimie, parce que c'est essentiellement physique-chimie mon livre, mais il y a aussi un peu de maths, un peu d'informatique, ils n'y arrivent pas, ils ne connaissent pas, parce que je vais dans des cas vraiment très improbables. Et donc, moi, l'objectif, c'est de partager, tout simplement. Voilà.
Vous n'êtes pas obligé de répondre directement à la question parce qu'elle est un peu, un peu Ardela. Est-ce qu'avec le recul, vous avez pu évaluer si l'intégration des connaissances est plus importante chez vous que dans d'autres enseignements traditionnels?
Je l'ai mesuré à ma façon, voilà, de manière, on va dire, forcément subjective. Hein. Je vais dire que d'un point de vue bachotage, d'un point de vue rigueur, d'un point de vue voilà, réussite, on va dire, aux examens, je ne pense pas être le meilleur dans l'équipe de physique au Chartreux, clairement. Je pense que j'ai des collègues qui sont plus classiques, qui font mieux travailler les élèves, qui expliquent peut-être mieux les... Enfin, pas expliquer, mais qui sont plus classiques, entre guillemets. Il en faut, il en faut. Et moi, j'aime bien aussi travailler beaucoup la rigueur, etc. Non, là où je ressens le côté bénéfique de ma façon d'enseigner, c'est que quand je vois un élève 10 ans après, qui est sorti des Chartreux, il se souvient de moi. Il se souvient de moi, de tel TP, et moi je lui dis, mais tu t'en souviens, moi j'ai déjà oublié. Je lui dis ça, donc voilà. Parfois, j'ai même oublié parfois l'élève. L'autre message que j'ai, et ça c'est très très rare, donc je m'adresse plutôt à l'ancienne génération, hein, quand il y avait les bacs S, ES, L, j'avais en seconde des élèves qui allaient faire un bac ES et bac L. C'est-à-dire qu'ils étaient, souvent malheureusement, il y avait la hiérarchie en haut, bac S. On n'y arrivait pas, on faisait un bac ES, on n'y arrivait pas, on faisait un bac L, ce qui est une bêtise absolue. Moi qui aime la littérature, c'est vrai, c'était une bêtise absolue. Et en dessous, il y a les bacs techno, les bacs pro, c'est totalement ridicule. Eh bien, ici, j'avais des élèves qui allaient faire un bac ES, donc ils étaient nuls en maths, physique, etc. Eh bien, une bonne partie des élèves qui allaient faire un bac ESL, en fin d'année, dernier cours, ils partent et ils me disent merci. Ils me disent merci, j'ai pris plaisir. J'ai apprécié cette année, je ne me suis pas ennuyé. Bon, j'étais nul, j'y arrivais pas, je ne comprenais pas tout, mais j'ai fait du mieux que je pouvais. Et c'est là où et c'est très rare qu'un prof ait des remerciements d'un élève qui n'est pas bon. Et ça, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Un élève qui est très bon, il va faire aujourd'hui donc les spécialités physique, chimie, maths, en première, terminale, etc. Il va aimer, forcément. Même un mauvais prof, il l'aimera parce qu'il fera la matière, enfin, il fera des exercices qu'il aime bien, etc. Mais pour moi, mon objectif, c'est de faire aimer à des élèves qui ont des difficultés. Et là, d'ailleurs, l'année dernière, j'ai rencontré un parent d'élève qui travaille au Chartreux à Saint-Étienne, qui est CPE là-bas. Et je le rencontre à la fin de fin d'année, donc l'année scolaire était terminée. Il me dit « Ah, ma fille vous adore, elle vous adore, elle vous l'a vu en cours. » Je commence par les bons élèves qui ont bien accroché, etc. Et en fait, c'était l'élève qui avait 4-5 de moyenne, etc. Et c'est vrai que j'avais remarqué qu'elle était gentille en courant avec moi, mais que voilà, c'était pas son truc. J'étais surpris. Et cette jeune fille, hein, elle faisait que de dire à son papa, j'adore, j'ai écouté, je vais faire des efforts, etc. Non, mais c'est ça, moi, le plus beau cadeau. Et c'est là où je vois que ma méthode, moi, je veux qu'ils aiment. Et une fois qu'ils aiment, s'ils vont faire la première SP, ben là, mes collègues peuvent prendre le relais et je me dis, ben, tout le monde est gagnant. Moi, j'arrive à convertir des élèves à aimer les sciences et derrière, j'ai des collègues qui vont les former de manière encore plus rigoureuse que moi.
Est-ce que c'est une solution pour redonner envie aux jeunes d'aimer l'école?
Oui, c'est une solution. Après, le problème, c'est que voilà, moi, je suis au Chartreux et au Chartreux, c'est pas le public. C'est une fausse image de la France. C'est-à-dire que je vais sur des sentiers un peu dangereux. Hein. Ici, on a des enfants de bonne famille qui ont des moyens parce que la scolarité est chère. Qui sont d'éducation chrétienne. Donc, on a quelques élèves musulmans, quelques élèves juifs, on a beaucoup d'athées, hein, bien entendu. Mais si je devais enseigner... Donc, j'ai enseigné 2 ans à Saint-Louis-Saint-Bruno, qui, lui, est un lycée, on va dire, normal, avec des filières technologiques, avec... j'avais lu, après, à vérifier qu'aujourd'hui, en France, 30% de la population, enfin, des Français, donc de ceux qui ont une pièce d'identité française, ont des origines maghrébines, des 30 glorieuses, etc. Donc là, je dirais que c'est un fait. Ici, au Chartreux, quand on voit une classe, il y en a un ou deux sur 30, donc on est plus à 5-10%. À Saint-Louis-Saint-Bruno, c'était 50%. Donc je me dis que, j'ai enseigné là-bas 2 ans, j'ai pris plaisir, c'est sûr, c'était plus dur, parce que les élèves étaient moins studieux, et je me suis fait, par contre, de meilleurs amis parmi les profs là-bas. Mais, donc je ne sais pas, j'ai pas assez de recul. J'ai enseigné, enfin maintenant ça fait 15 ans que je suis au Chartreux et je vais y rester toute ma carrière, sauf accident grave, voilà, ça, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Mais je pense que pour les, voilà, je pense que c'est facile pour moi, pour des élèves qui sont intéressés, qui sont de bonnes familles, etc. Mais je pense que, après, de manière générale, moi, je suis aussi prof d'informatique. L'informatique, on enseigne d'une autre manière. Là, je pense qu'on peut accrocher des élèves qui sont en décrochage scolaire, justement. Ça peut être une méthode, mais je ne sais pas, ça pourrait marcher dans d'autres collèges lycées.
Et oui, c'est toute la question qu'on pourrait se poser. Bon, on est en radio, attention, n'allez pas interpréter les paroles. Non, nous allons rester comme nous sommes. On reste tout habillés et maintenant, on va parler. On va se mettre tout nu. Enfin, en un certain sens. On ne va pas se mettre tout nu parce qu'on est tout habillé. Mais là, c'est un petit jeu. Attention, on va choquer les consciences, là. Hein.
Oui, surtout au Chartreux, où il y a une croix dans chaque salle de classe. D'ailleurs, je vais quand même vous raconter une expérience que mes élèves adorent. Et je la raconte, hein, je ne sais pas si c'est choquant. En cinquième, on doit vérifier si les matériaux sont conducteurs ou isolants. Voilà. Donc les métaux sont conducteurs, le plastique ou le bois, c'est isolant. Et une fois qu'ils ont fait l'expérience, je leur tends une croix qui est bénie. Voilà, et je leur dis, est-ce que la bénédiction d'un prêtre d'une croix chrétienne, est-ce que ça transforme la matière physiquement? Donc forcément, c'est toujours isolant. Et je leur dis, la bénédiction, c'est d'un autre domaine, c'est pas du domaine scientifique. Hein. Il y a beaucoup de scientifiques qui sont croyants, hein, contrairement à ce que vous pouvez penser. Et moi, ça ne me dérange pas de décrocher une croix et de leur dire, tenez, faites le circuit électrique avec la croix, on la remettra bien sûr à sa place. Donc ça ne me dérange pas trop, mais bon, je sais que c'est peut-être un peu limite, mais moi, les élèves, ils adorent et ça me suffit pour le faire. Donc la question que je vous propose, elle est aussi, moi je la trouve amusante, et je l'ai mise dans le tome 2, hein, 90 nouvelles questions scientifiques surprenantes chez Ellipse. C'est la suivante. Donc, quand on va comme Thomas Pesquet va dans l'espace, notamment, ils utilisent des combinaisons, qui sont très lourdes. Il y a un gros entraînement. C'est dur. Le métier d'astronaute est très dur. La question est la suivante. Donc, ils prennent une combinaison, bien sûr, pour se protéger, etc. Et bien, je vous pose la question. Imaginez qu'un astronaute sort de son vaisseau tout nu. Voilà, entièrement nu, voilà. Il sort par accident ou par choix. Forcément, il va mourir. Voilà. Bon, c'est comme ça, hein. Il n'a qu'à suivre les consignes qu'on lui dit. Mais la question que je pose, c'est la suivante, c'est de quoi va-t-il mourir? Donc, réponse A, est-ce qu'il va mourir parce qu'il manque d'oxygène pour respirer? À cause de la très faible température, hein, je rappelle, dans l'espace, c'est moins 273 degrés Celsius. Hein. Est-ce qu'il va mourir à cause des rayons UV du soleil, puisqu'il ne va plus être protégé par sa combinaison? De la très faible pression, c'est quasiment 0 bar dans l'espace, ou par manque d'eau? Donc je pose cette question et la réponse est assez, assez surprenante. Je vous la donne.
Moi j'ai dit qu'il allait prendre froid.
Voilà, il allait prendre froid, mais en fait non, parce qu'il va faire très froid. Donc, il va ressentir le froid, mais il ne va pas mourir tout de suite de froid. Parce que comme c'est le vide, il n'y aura pas de perte de chaleur. La chaleur va rester un certain temps dans le corps. Pour perdre de la chaleur, il faut que la chaleur puisse s'évacuer. Et comme c'est le vide, c'est comme du double vitrage. Hein. Il y a un léger vide entre les deux vitres. Et bien, ça permet de conserver la chaleur d'un côté et le froid de l'autre. Donc en fait, on ne va pas mourir de froid. On pourrait croire qu'on va mourir d'oxygène. En fait, non, puisqu'on peut retenir un peu sa respiration. Et même si on perd connaissance, en étant réanimé suffisamment vite, c'est pas ça. Non, en fait, le pire, c'est la très faible pression. Et là, on pourrait évoquer la loi des gaz parfaits qu'on étudie. La très faible pression fait que les liquides corporels, tout ce qui est eau dans d'autres corps, le sang, salive, urine, etc. À cause de cette très faible pression, ça va se mettre à bouillir littéralement, et les artères vont éclater. Et en fait, ça va, voilà, en fait, on va éclater de l'intérieur vers l'extérieur, et en fait, on va mourir de ça. C'est-à-dire que le corps va se déformer et les artères vont, voilà, le sang va gicler, excusez-moi l'expression, et on va mourir à cause de ça. Et en même temps, au niveau de la cage thoracique, on va ressentir comme, enfin, c'est ce que racontent les gens qui subissent des crises cardiaques. Une crise cardiaque, on ressent un poids énorme à ce qui paraît sur la poitrine, comme si c'était 500 kilos sur la poitrine. Ben là, ce sera la même chose, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que l'intérieur, c'est 1 bar, l'extérieur, 0 bar. Donc ça va faire exploser la cage thoracique, mais vers l'extérieur. Donc c'est tout ça qui va être le facteur numéro 1 de notre mort, qui sera rapide, mais très douloureux, je l'imagine.
Bon, ben, il y a de quoi se régaler. Il y a combien ? Donc, il y en a 80, 90. Bon, alors, pourquoi ? Question bête, pourquoi 90 ?
Aucune idée. On voulait chercher un chiffre, et puis, il n'y a pas de symbolique. 100, on trouvait que c'était dommage d'aller à 120. À 100, pourquoi on n'irait pas à 120 ? On a hésité à 99, puis on s'est dit, allez, 90. Donc, voilà. Et là, juste pour ceux que ça pourrait intéresser, si j'ai l'accord, bien sûr, de mon éditrice, j'en ai 130 autres questions. Donc, j'écrirai le tome 3, a priori, cet été, pour une sortie. Donc, on est en 2022, que je ne me trompe pas, en 2023. Voilà. Il y a du temps entre le moment où on rend les... C'est impressionnant. Moi, j'ai découvert ça. Hein. Quand le livre sort, j'ai oublié le contenu, parce qu'il y a eu presque 9 mois qui s'écoulent entre le moment où je remets le manuscrit à mon éditrice. Après, il y a toute la relecture, la mise en page, après l'impression, c'est très très long. Donc voilà, 2023 pour le tome 3, et je mettrais bien un titre du style 90, autre question scientifique surprenante. J'essaye de trouver des solutions qui plaisent à mon éditrice. Donc voilà.
Comment est-ce qu'on fait si on veut découvrir le livre, si on veut le retrouver, si on veut le commander ?
J'aurais tendance à dire Internet, Amazon, Fnac, etc. Mais je vais me faire tirer les oreilles par ma sœur qui est libraire à Aix-les-Bains, librairie des Danaïdes, qui privilégie, et moi je le fais pour tous mes achats de livres. J'achète parfois sur Internet, j'achète dans les grandes librairies type Décide. D'ailleurs, j'ai fait une séance dédicace chez Décide ou Cultura. C'était le week-end dernier, je crois que j'ai fait une séance dédicace chez Cultura, à Champagne. Donc, sur Internet et dans n'importe quelle librairie de France, vous donnez le titre ou vous cherchez ce qu'on appelle l'ISBN, ou le code barre, entre guillemets, et vous pouvez l'acheter. Le livre, il est à 14 euros. Et pour 14 euros... vous prendrez plaisir, j'espère. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez organiser vous-même des quiz en famille, avec votre compagnon ou votre compagne. C'est vraiment pour se tester. Et à chaque fois, vous avez la réponse au dos. Donc, c'est juste, voilà. On fait 5 questions, question 1 à 5, et on note les scores. Et ça, voilà, moi c'est tout, voilà, tout ce qui est ludique, j'adore.
Voilà, puis vous allez retrouver aussi les éléments sur le site de la radio, comme ça vous pourrez retrouver la production de Martin Fontaine. 90 questions scientifiques surprenantes, 90 nouvelles questions scientifiques surprenantes, les nouvelles cette fois-ci, et puis le prochain qui arrive bientôt. Merci Martin.
Merci beaucoup.